RFI, grand reportage.
Amélie Tullet.
Bonjour à tous. Le Brésil vote dimanche pour l'élection présidentielle, un pays où la violence est quotidienne et la précarité de plus en plus grande. Balles perdues, pression policière, loyer hors de prix, les problèmes s'accumulent et la campagne électorale n'apporte pas de solution. La crise économique au Brésil provoque une crise sociale de grande ampleur. L'extrême droite en sort renforcée. Les Brésiliens sont partagés entre mécontentement, colère et désespoir. Brésil, le désespoir social, un grand reportage entre Rio et Sao Paulo de François Cardona et Sarah Cozzolino.
Des dizaines de personnes affluent cet après-midi dans le cimetière municipal de la lointaine banlieue de Rio de Janeiro. Tous sont venus assister à l'enterrement de Rodrigo Serrano, âgé de 26 ans. Il a été tué la veille par des policiers militaires. Rodrigo portait un parapluie à la main. Les soldats l'ont confondu avec un fusil. Sa cousine ne cache pas sa colère.
Les gens meurent tout le temps autour de nous, tués par des criminels ou par des policiers, et parfois par erreur. Comme avec ce parapluie, il le tenait en main, les flics ont cru que c'était un fusil, et lui ont tiré dessus alors qu'il allait voir son épouse et ses enfants. Il était à l'arrêt de bus, et ils ont tiré. À cause d'un parapluie. Voilà la réalité du Brésil.
Rodrigo était serveur. Il avait une épouse et deux enfants. Sa mort a choqué le Brésil tout entier. Elle a révélé l'ampleur de la crise sécuritaire qui secoue Rio de Janeiro. La criminalité a explosé. Braquages et agressions sont devenus quotidiens. Les affrontements entre trafiquants de drogue et policiers aussi. Cet après-midi, au milieu des tombes fleuries, Valéria de Assis, la mère de Rodrigo, prend l'assemblée à témoin.
Je veux vous dire une chose, ces gens vont payer. Ils ont exécuté mon fils, il a reçu 2 balles, mais il est arrivé à l'hôpital avec 3. Mon fils a été exécuté, je vous le dis. Sans compter le fait qu'ils ont tiré sur quelqu'un qui ne portait pas d'armes, mais un parapluie. Ils ont exécuté mon fils, mais je ne vais pas en rester là. Je veux que justice soit faite. Et je ne veux pas que l'on se souvienne de lui comme un bandit, un voleur. Il avait fait des erreurs, mais il avait payé pour ça. Il avait un travail, il menait une vie correcte. Mon fils n'était pas un criminel.
Meu filho não é ladrão. Meu filho não é bandido. Não quero!
Rodrigo avait été condamné à 7 ans de prison pour vol à main armée en 2014, mais il était en liberté conditionnelle depuis 2 ans. Il s'est retrouvé au milieu d'une fusillade entre policiers et trafiquants de drogue, au mauvais moment, au mauvais endroit, comme cela arrive presque tous les jours désormais.
Je peux vous dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'autres mamans sont solidaires avec moi. Beaucoup d'entre elles pleurent avec moi. Et pas seulement des mères qui habitent dans les favelas, des mères de bandits, mais aussi des mères de policiers qui meurent eux aussi. Des mères de simples Brésiliens qui partent de chez eux, qui vont travailler et ne savent pas s'ils vont revenir vivants. Voilà la situation, c'est horrible, c'est très dur. Aujourd'hui, si ma douleur est si grande, c'est à cause de ma propre souffrance, mais aussi celle de toutes les mères qui ont perdu un fils ou vont en perdre bientôt.
Depuis le début de l'année, les victimes involontaires de la police n'ont cessé d'augmenter. Balles perdues, exécutions sommaires, usage démesuré de la force. Les victimes se comptent par centaines, les blessés par milliers. Thaïs Freitas, l'épouse de Rodrigo, sait qu'elle n'est pas la seule à souffrir.
C'est une nouvelle victime. Aujourd'hui, des gens bien qui travaillent perdent la vie. Et les policiers, au lieu de nous protéger, ils sont devenus notre ennemi. Des gens que l'on doit craindre. Je réclame justice pour mon mari, car il n'est pas mort, il a été assassiné. Les experts de la morgue ont confirmé qu'il avait été touché par un tir à bout portant. Les policiers veulent dissimuler la vérité, mais on ne peut pas en rester là.
À la veille de l'élection présidentielle, les fusillades et les balles perdues sont devenues habituelles. Dans les favelas de Rio, certaines écoles primaires situées dans des zones de conflit sont régulièrement contraintes de fermer leurs portes. La criminalité endémique pousse les policiers à enfreindre eux aussi les règles, en toute impunité.
Les policiers font ce qu'ils veulent, on est à leur merci. Ils entrent dans nos maisons à n'importe quelle heure. On espère que les problèmes dans notre favela vont se résoudre. Avec les élections qui arrivent, j'espère que l'État va arriver à mieux assurer notre sécurité et améliorer l'économie. À chaque élection, on espère une amélioration, voire un changement, parce qu'on a déjà atteint le pire, vous savez.
La situation dans les quartiers pauvres de Rio se détériore rapidement. L'emblématique programme d'implantation de commissariats de police dans les favelas tenus par les trafiquants est en train d'être démantelé. Les UPP, les unités de police pacificatrices, c'était pourtant une politique phare lancée en amont de la Coupe du Monde de football et des Jeux Olympiques en 2014 et 2016. Aujourd'hui, alors que la campagne électorale bat son plein, les habitants des favelas sont désabusés. À l'image de Paola, la cousine de Rodrigo venue assister à son enterrement.
Os nossos jovens são mortos pela polícia ou são mortos por bandidos.
Bandits ou policiers, ça ne fait plus de différence. On meurt à cause d'eux. Au final, c'est la faute de ceux qui nous dirigent. Ils ont détruit ce pays. Il n'y a plus d'argent. Plus d'argent. Ni pour investir dans la sécurité, ni dans la santé. Alors dites-moi, on va voter pour qui ? Aujourd'hui, on n'a aucune perspective d'amélioration. Je n'en vois aucune pour notre pays. Chaque jour, on se rend compte qu'il n'y a pas de solution. Maintenant, vous pouvez être agressé dès 6 heures du matin quand vous sortez travailler, jusqu'à minuit quand vous rentrez chez vous. Mon neveu a été braqué 4 fois. Et aujourd'hui, j'enterre mon cousin. On est foutus. On n'a plus qu'à prier. Prier. C'est ce qu'on fait tous les jours, jusqu'à ce que nos enfants reviennent à la maison.
La crise sécuritaire qui frappe Rio de Janeiro atteint tout le pays. La récession économique a épuisé les ressources publiques. Les scandales de corruption en série ont révélé des détournements d'argent massifs. L'État de Rio a réduit ses dépenses dans la santé et l'éducation. Pour faire face à la crise sécuritaire, le président sortant, Michel Temer, a décidé d'une intervention militaire fédérale à Rio de Janeiro en février dernier. Mais les résultats sont accablants. Fusillades et affrontements ont augmenté, la violence et l'insécurité n'ont pas été réduites. Pour interpeller les autorités et les habitants sur la violence qui touche les quartiers déshérités, des associations de défense des droits de l'homme ont décidé d'organiser un tribunal populaire.
Pourquoi une mère devrait-elle voir son fils assassiné sans vie ?
L'avocate de la défense vient de prendre la parole.
Existe-t-il une souffrance plus grande qu'enterrer son fils ou son neveu ? Ces morts, ces exécutions ont une cible, les noirs, les pauvres qui habitent dans les banlieues. On ne peut plus accepter que notre État continue de violer les droits les plus élémentaires, comme l'éducation, la santé ou le logement.
Dans les favelas du Brésil, les victimes de morts violentes sont souvent des jeunes à la peau noire. Bruno Sankofa, avocate de l'ONG Criolla, s'insurge contre cette fatalité.
La menace a été construite dans l'imaginaire social. Cette menace a une couleur, un âge, et habite dans une zone bien définie. C'est pour cela que nous avons voulu organiser le tribunal populaire dans ce quartier. Parce qu'aujourd'hui, notre société estime que la menace vient des jeunes noirs pauvres de la périphérie.
Ce procès symbolique vise à dénoncer les crimes perpétrés par les agents de l'État contre la population des favelas. Face à l'impunité, face aux lenteurs de la justice, un nouvel activisme politique est en train de surgir au sein même des communautés affectées. Lia Manso, avocate des droits de l'homme, espère que les recommandations du tribunal seront écoutées par les autorités.
Dans sa décision, le juge a décidé d'en appeler à l'État pour qu'il verse des réparations pour la violence commise dans les opérations policières dans les favelas. Il faut aussi qu'il y ait la mise en place du droit à la mémoire pour les victimes. C'est une part importante de la justice. Enfin, les domaines de la santé et de l'éducation sont fondamentaux pour que ces réparations deviennent pérennes. Il faut davantage d'investissements pour que la situation s'améliore et que l'on ne revienne pas en arrière.
Les avocats et les magistrats mobilisés dans l'organisation de ce tribunal populaire remettront ses recommandations au pouvoir législatif et judiciaire à Brasilia, la capitale.
Nous croyons tous fermement qu'il n'existe pas de transformation sociale possible sans activisme et sans une participation directe de la population. Ce tribunal populaire, c'est le symbole que tout cela est possible. Nous espérons que nos propositions seront reprises par les institutions judiciaires et législatives.
Mais la violence et les injustices croissantes échauffent les esprits. À la veille de l'élection présidentielle, le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro est en tête des sondages. Machiste, xénophobe, son discours sécuritaire pourtant séduit. Parmi ses électeurs, de très nombreux jeunes des favelas partagés entre désarroi et colère. Bruno Sankofa, l'avocat de l'ONG Criolla, craint que son pays ne bascule.
Le risque avec Jair Bolsonaro, c'est de voir la haine s'installer dans les rapports sociaux. Il structure son discours autour du droit du port d'armes. Et cela va démultiplier la violence. Notre société se trouve à un moment clé. Car même si Jair Bolsonaro n'arrive pas à prendre le pouvoir, il est déjà devenu le symbole d'une haine qui est en train de s'étendre. De plus en plus de gens pensent que c'est en se défendant, en provoquant la mort de l'autre, qu'on sera davantage en sécurité. Mais ça ne fonctionne pas ainsi. L'insécurité générée par l'État, ses policiers, voilà la réalité.
Pris au piège dans une spirale de violence, les Brésiliens sont aussi pris à la gorge par la crise économique. Près de 13 millions d'entre eux sont aujourd'hui au chômage, alors que le pays est officiellement sorti de la pire récession de son histoire il y a un an. Le taux de chômage au Brésil oscille depuis 2016 entre 12 et 14%. Pour les Brésiliens les plus modestes, la situation est en train de devenir intenable. Carla a 22 ans, elle a une fille de 2 ans. Cette vendeuse est au chômage, renvoyée par son employeur après une blessure au genou. Elle multiplie les petits boulots pour gagner sa vie.
Tout est très cher. J'ai de la chance que mon copain m'aide. Parfois, je rends quelques services. Le père de ma fille m'aide aussi pour les dépenses. Et grâce à Dieu, il ne nous manque rien. Par exemple, je peux faire les ongles parce que je m'y connais en manucure. J'aide dans des bars pour des ménages.
Avec l'augmentation du coût de la vie, la situation se détériore chaque jour. Comme beaucoup de Brésiliennes des classes moyennes, elle achète en gros, avec des amis, pour économiser sur le prix des denrées de base. Même le prix du riz, aliment essentiel pour les Brésiliens, est affecté par l'inflation. Carla se débrouille comme elle peut.
Ça a beaucoup changé. Avant, c'était 2 euros le kilo. Maintenant, ça va jusqu'à 3 ou 4. Alors moi, je dois fonctionner avec des achats en gros. J'achète d'un coup pour un mois, deux mois si je peux. C'est des gros paquets fermés, par exemple 6 détergents d'un coup, 6 savonnettes. Parfois c'est même par 12, ça dépend. Le produit vaisselle par exemple, ça revient normalement à 50 centimes. J'arrive à l'avoir à moitié prix. C'est bien moins cher.
Conséquence de la récession, le nombre de travailleurs informels n'a jamais été aussi haut. Ils sont plus de 34 millions de Brésiliens, selon l'Institut de géographie et de statistique. Si Lausanne n'arrivait plus à payer son loyer, elle a dû emménager dans un immeuble abandonné. Sans emploi, elle survit avec ce que gagne son compagnon qui décharge des camions.
Les riches pensent que le centre-ville n'est que pour eux. Et nous, les pauvres, on ne peut pas y habiter parce que tout est plus cher, pour acheter de la nourriture ou aller chez le médecin. Alors il faut qu'on aille vivre plus loin, en banlieue. Moi, je ne fonctionne pas avec les achats en gros, par exemple. Je n'ai pas les moyens. J'achète en fonction des promotions, toujours en petite quantité. Quand j'ai besoin d'un kilo de haricots et que je vois qu'il est moins cher dans tel magasin, alors je cours acheter et comme ça, on ne manque de rien. Aujourd'hui, dans les magasins extra, il y a une promotion pour les oignons à 50 centimes. Alors je vais me dépêcher d'aller en acheter parce que demain, ce sera sûrement plus cher.
La récession économique qui a frappé le Brésil ces dernières années a durablement affaibli les couches sociales les plus vulnérables. À Sao Paulo, les loyers sont devenus inabordables pour des milliers de familles. Elles occupent des immeubles abandonnés dans le centre de la capitale économique brésilienne. Des squats très bien organisés, comme celui de l'occupation du 9 juillet. Dans cet immeuble vivent 126 familles, près de 400 personnes depuis plus de 2 ans. Pour y accéder, on passe une petite porte en fer et une allée fleurie mène au bâtiment principal. Des peintures sur les murs, des fleurs dans les toilettes. Les squatteurs ont redonné une nouvelle vie à cet immeuble abandonné pour le rendre habitable. C'est ici que vivent Justina et José, récemment mariés dans 15 mètres carrés, avec des fissures dans les murs et des trous dans le sol.
Au début, je trouvais ça bizarre de vivre ici. Mais après, je suis devenue amie avec les gens d'ici. Et maintenant, je me sens bien. J'aime cet endroit. La vie est devenue trop chère, surtout pour les pauvres. Aujourd'hui, on doit travailler le double, simplement pour entretenir sa famille.
Justina est cuisinière, mais en ce moment, elle est au chômage. Son compagnon José est concierge depuis 6 mois.
Ici, on s'entraide beaucoup. Quand quelqu'un a besoin de quelque chose, il reçoit toujours de l'aide. Donc si on compare ça avec un loyer normal, ici, c'est beaucoup moins cher. D'ailleurs, on parle de contribution, même pas de loyer. Pour vivre, il y a mon salaire. Ma compagne touche un peu de chômage, mais comme on ne paie pas de loyer actuellement, on peut s'en sortir pour survivre.
Pour habiter dans ce bâtiment, chaque famille paye une contribution mensuelle d'environ 50 euros pour couvrir les frais d'électricité, de gaz et d'eau. Les squatteurs ont ouvert une menuiserie, installé des toilettes et une cuisine en commun. Carmen Silva gère cet immeuble. Elle fait partie du mouvement des sans-toits du centre de Sao Paulo.
São todos trabalhadores. O movimento não trabalha com assistencialismo. A competência do movimento é.
Ce sont tous des travailleurs. Ici, on ne fait pas d'assistanat. Le but de notre mouvement, c'est de rendre leur dignité aux familles. Ici, il y a des chauffeurs de taxi, des infirmiers, des esthéticiennes, des coiffeurs, des gardiens, plein de professions différentes. Ils doivent participer aux réunions du mouvement et comprendre qu'on n'est pas une agence immobilière. On est un mouvement de lutte. Et l'occupation, c'est notre outil de lutte. Le logement est basique, mais il comprend des services de santé, d'éducation, de culture. Ici, tout le monde s'entraide. Il y a un grand réseau de dentistes, de médecins. Pour ceux qui ont des difficultés à accéder à ces soins à l'extérieur, ici, c'est beaucoup plus facile parce que nous travaillons pour le collectif.
La question du logement précaire a été délaissée par les principaux candidats à la présidentielle. C'est pourtant un défi social majeur. Pour Carmen, la solution doit venir des pouvoirs publics. Mais en l'absence de volonté politique, elle est convaincue que l'action directe, l'occupation de logements vides, est légitime.
Ici, à São Paulo, il y a 4196 immeubles vides et 3196 familles sans logement. Je parle ici de la seule ville de São Paulo. L'inertie des pouvoirs publics, le manque d'action pour résoudre le problème du logement est un thème très controversé. On entend qu'il n'y a pas d'immeubles, de terrain, que São Paulo est une ville très chère. Mais nous, on prouve que ça existe, qu'il y a même plusieurs bâtiments occupés. Et s'ils n'étaient pas occupés, les familles ne pourraient pas manger. Parce que pour quelqu'un qui gagne un salaire au Brésil, tout part dans le loyer. C'est 30% du salaire, même pour des immeubles insalubres. Et c'est ça la grande différence dans ce lieu.
Réinventer un modèle de communauté pour faire face au chômage, à la misère, un ultime espoir pour les plus vulnérables. Nelson Souza coordonne le mouvement pour le logement dans le centre de Sao Paulo depuis près de 20 ans. Il a vu la situation se détériorer très rapidement ces dernières années. Il est indigné, mais impuissant face à l'ampleur de la crise.
Personne ne peut payer de loyer parce qu'il faut choisir entre deux choses. Soit tu paies ton loyer, soit tu manges. Donc, qu'est-ce que tu vas préférer, payer ton loyer? Alors tu vas mourir de faim. Si je pense que ça pourrait s'améliorer, bien sûr que ça peut, si le gouvernement s'y intéressait. Si on assemble les trois niveaux de gouvernance, le national, l'État et la commune, pour construire des logements à grande échelle, on mettrait fin au problème des sans-abri dans notre ville et dans tout le pays.
Miné par la corruption, le mal logement et une violence endémique, le Brésil se retrouve aujourd'hui à la croisée des chemins. La crise sociale s'est durablement installée. Des millions de Brésiliens craignent de ne jamais s'en sortir. Grand reportage François Cardona et Sarah Cozzolino, réalisation Pierre Chaffanjon.